RFI, les 5h à Paris, 3h en temps universel.
Andréane Mélard.
Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, la situation toujours plus critique pour les habitants de Gaza après bientôt un an d'une guerre sans répit entre Israël et le Hamas. Reportage à suivre sur le littoral sud de l'enclave palestinienne où certains Gazaouis sont réfugiés. Dans le même temps, les négociations pour un cessez-le-feu sont au point mort. Dans ce journal, on va aussi parler de la France, toujours dans l'attente d'un gouvernement. À la une aussi, les inondations en Europe, conséquence du passage de la tempête Boris. Inondations aussi au Nigeria. Le président Bola Tinubu était à Maïdougouri hier pour soutenir les sinistrés et constater les dégâts. Et puis les incendies, toujours très violents au Brésil. Les pompiers luttent activement contre les flammes. Une souffrance inimaginable subie par la population de Gaza. Les mots hier du secrétaire général de l'ONU dans un entretien accordé à nos confrères de l'agence France Presse. Cette souffrance, ces morts et ces destructions n'ont pas de parallèle avec ce que j'ai pu voir depuis que je suis secrétaire général, a regretté Antonio Guterres en poste depuis début 2017. Depuis bientôt un an que l'opération militaire israélienne a été lancée dans la bande de Gaza suite à l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre. Les morts se comptent par dizaines de milliers. Hier encore, 10 personnes sont mortes à Nousseirat, dans le centre de l'enclave palestinienne, 6 à Gazaville, dans le nord, 2 à Rafah, dans l'extrême sud du territoire. La population de la bande de Gaza vit depuis 11 mois au gré des bombardements, des privations, des déplacements. Ils sont beaucoup à s'être réfugiés dans le sud, un périmètre dit humanitaire sur le littoral. Seulement voilà, la zone est surpeuplée. Les déplacés y ont planté leur tente jusque sur les plages, un campement de fortune déjà bien éprouvé par le mauvais temps et par les vagues. Reportage sur place, Rami Al-Megari avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
Le vent est retombé et la mer déchaînée a retrouvé son calme. Khaled Aboudia avait planté sa tente sur cette plage de Mawassir Khan Younes au printemps dernier.
Nous étions en train de dormir. La mer est rapidement montée. Il y a eu un violent orage et les vagues ont déferlé jusqu'à l'intérieur de nos tentes. Si les premières pluies de la saison nous laissent dans cet état, qu'est-ce que ça va être durant l'hiver? Où va-t-on aller? À côté, nos voisins et leurs enfants ont failli être emportés par les flots.
La voisine, Nabiha Abou Toha, mère de 3 enfants, tente désormais de sauver ce qui peut l'être.
Regardez, tout est mouillé. Nos vêtements, nos matelas et nos couvertures. Ça a été un déluge. On a perdu le peu qu'on avait et on n'a pas les moyens de se loger ailleurs. On n'a pas de vêtements de rechange. Toutes nos affaires sont à jeter.
À jeter, car la mer à Gaza est très polluée, explique Shaban, le mari de Nabih.
L'eau de mer est un mélange de détritus et d'eau usée. On baigne dans les maladies et les virus. J'en appelle aux puissants de ce monde. S'il vous reste un peu d'humanité, faites en sorte que cette tragédie et cette guerre s'arrêtent.
Rami El-Merali, Gaza, Sami Bourkif à Jérusalem, RFI.
Les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza semblent pour l'heure au point mort. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rendra cette semaine en Égypte pour discuter avec les médiateurs égyptiens et qatariens engagés, des efforts déployés en vue de parvenir à un cessez-le-feu dans l'enclave. Hier, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a affirmé que son mouvement était préparé pour mener une longue guerre d'usure. De son côté, le ministre israélien de la Défense a affirmé que la possibilité d'une solution diplomatique s'éloignait pour faire cesser les échanges de tirs quotidiens entre Israël et le Hezbollah libanais à la frontière. Les États-Unis, où l'on en sait un peu plus sur la deuxième tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump dimanche après-midi sur son terrain de golf en Floride. L'homme, arrêté peu après, n'a pas tiré, assure le Secret Service en charge de la sécurité du milliardaire. Il a fui lorsque les agents de protection de l'ex-président ont ouvert le feu. Le suspect de 58 ans a été présenté hier à un juge. Sa comparution se tiendra le 23 septembre prochain. Cette tentative d'assassinat survient, on le rappelle, en pleine campagne pour la présidentielle américaine. Hier, le vote par correspondance a commencé dans l'état de Pennsylvanie, un état clé pour ce scrutin. RFI 5h04 à Paris, toujours pas de nouveau gouvernement en France. Plus d'une semaine après la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, ce dernier poursuit ses consultations. Pour l'heure, on ne sait pas qui va composer son équipe. Hier après-midi, le locataire de Matignon a reçu reçu à nouveau les membres de sa famille politique, les dirigeants du parti de droite, les Républicains, mais aussi son prédécesseur Gabriel Attal. Une chose est sûre, le poste aux affaires étrangères est vacant. Stéphane Séjourné a été nommé hier commissaire européen en remplacement de Thierry Breton. Valérie Gasse.
Va-t-il y avoir un jeu de chaises musicales au Quai d'Orsay alors que le départ de Stéphane Séjourné pour la Commission européenne vient d'être annoncé? Depuis des mois, Gérald Darmanin fait savoir son intérêt pour le ministère des Affaires étrangères. Celui qui est encore ministre de l'Intérieur a rencontré Michel Barnier samedi, officiellement pour que le Premier ministre le remercie de son travail dans l'organisation des JO. Une occasion aussi d'échanger sur la formation du prochain gouvernement. Un exercice sous contrainte pour Michel Barnier qui doit tenir compte des équilibres politiques alors que la droite républicaine fait le forcing et le bloc central de la résistance pour que le gouvernement ne penche pas à droite toute. Michel Barnier doit aussi tenir compte de la volonté de changement manifestée dans les urnes par les Français en formant une équipe qui ne recyclera pas trop de ministres sortants. François Bayrou a même plaidé pour un renouvellement intégral. Michel Barnier a promis lui de ne pas faire un simple remaniement avec même des personnalités de gauche dans l'équipe. De l'intention à la finalisation, le casting prend du temps et ne devrait pas être bouclé avant la fin de la semaine.
Valérie Gasse. À Madagascar, on a appris hier par le rapporteur général de la CENI, l'organe chargé d'organiser les élections de proximité du 11 décembre prochain. Celles et ceux qui veulent se porter candidat au poste de maire et de conseiller municipaux ont une semaine de plus pour le faire. Une décision contrainte en raison du faible nombre de candidatures enregistrées pour l'heure selon les dernières données dévoilées sur près de 1700 communes que compte la Grande Île. Seuls 79 dossiers ont été déposés. Bilan alourdi après le passage de la tempête Boris en Europe centrale et orientale. Au moins 18 personnes ont été tuées, principalement en Roumanie, mais aussi en Autriche, en Pologne et en République tchèque. Au Nigeria, c'est à Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, dans le nord-est du pays, qui a été touché par d'importantes inondations la semaine dernière, conséquence de la rupture d'un barrage au sud de la ville. Bilan officiel de cette catastrophe, une quarantaine de morts et plusieurs centaines de milliers déplacés. Le président nigérian Bola Tinubu s'est rendu hier sur place pour remercier les autorités locales pour leur action et témoigner de son soutien aux populations. Une semaine après le drame, la situation est toujours critique sur place, comme l'explique Trond Jensen, le chef de l'OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires au Nigeria.
La moitié de la ville est toujours touchée. À cause des crues, il est encore difficile de se déplacer. Certains ponts de la ville ont été endommagés ou détruits. Et actuellement, nous accueillons plus de 300 000 personnes dans des logements temporaires dans 30 camps autour de la ville. Nous sommes extrêmement préoccupés par la surpopulation dans ces installations et par le risque d'éventuelles épidémies. Ce que nous essayons de faire avec le gouvernement, c'est de fournir à ces gens les choses dont ils ont le plus besoin, comme des aliments cuits, l'accès à l'eau potable, l'accès aux services sanitaires et la protection pour les enfants non accompagnés. Un grand nombre de personnes ont été impactées par ces inondations. Les autorités locales disent que jusqu'à 1 million de personnes ont été touchées d'une façon ou d'une autre.
Des propos recueillis par Pierre Firsion. Au Brésil, c'est contre les flammes que sont engagées en ce moment les autorités. Depuis de longs jours maintenant, des incendies dus notamment à la sécheresse ravagent les régions de Brasilia, de l'Amazonie ou encore du Pantanal. Et la situation est telle que l'air devient irrespirable à Brasilia en raison des fumées qui se dégagent. Hier, le président Lula a réuni son gouvernement pour tenter de trouver de nouvelles mesures pour faire face à ces incendies. À Sao Paulo, Martin Bernard.
Cela fait bientôt 6 mois que Brasilia n'a pas reçu une goutte de pluie. Le parc national de la capitale s'est embrasé et l'incendie dégage des fumées qui polluent une grande partie de la capitale. Ce même scénario s'est répété à Sao Paulo au cours des derniers jours. Là, ce sont les plantations de canne à sucre qui ont pris feu la semaine dernière. Les incendies ont encore détruit une bonne partie du Pantanal, un véritable sanctuaire écologique. Les flammes ont ravagé la savane du Cerrado et bien sûr l'Amazonie, où la sécheresse a provoqué la chute du niveau des eaux. Résultat, les fleuves ne sont plus navigables et les populations locales se retrouvent isolées. Les experts s'alarment, les changements climatiques se manifestent beaucoup plus vite que prévu, disent-ils. Le gouvernement met en cause des incendies criminels, des écologistes accusent eux, les grands propriétaires terriens et les partisans de l'ancien président Bolsonaro de jeter de l'huile sur le feu pour accélérer la déforestation. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Sao Paulo, où il est actuellement 10:30, 5h10 ici à Paris, 3h10 en temps universel. Vous restez avec nous dans 20 minutes. C'est l'information africaine, le journal. Mais d'abord, c'est le grand reportage sur RFI.